spirituel aujourd'hui, il est évidemment question de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est sa fête liturgique. Elle est décédée le 30 septembre, mais elle est décédée le jour de la fête de Saint Jérôme, et Saint Jérôme est un si grand saint que l'Église a cru préférable de reporter sa fête liturgique au lendemain, le 1er octobre. Cette sainte carmélite décédée il y a 100 ans, comme vous savez, hier. Et aujourd'hui, bien, c'est la sainteté dans les petites choses, selon la pensée, la doctrine de Sainte Thérèse de Lisieux, que l'on appelle aussi, je le dis pour certaines personnes qui l'ignorent, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, Thérèse Martin, la petite Thérèse, par opposition à la grande Thérèse, qui est Sainte Thérèse d'Avila, qui était carmélite comme elle il y a déjà plusieurs siècles. Aujourd'hui, donc, nous parlons brièvement au début d'une vie de Sainte Thérèse, parce que je l'ai déjà faite plusieurs fois et je ne voudrais pas me répéter. De toute façon, il en a été question au cours des dernières émissions, car les trois dernières émissions, vendredi dernier, lundi et mardi, portaient en fait sur elle, puisqu'il était question de sa mère, de son père et hier de sa mort. Thérèse Martin est née à Alençon, en Normandie, en France, le 2 janvier 1873. C'était la dernière enfant d'une famille qui en avait compté des neuf, dont seulement quatre filles survivaient encore. Elle est la cinquième. Le père, Louis Martin, je vous recommande sa vie, c'est intéressant pour des laïcs de lire sa vie. Louis Martin, par le docteur Robert Cadéo, c'est paru chez François-Xavier de Guibert, les éditions François-Xavier de Guibert, de même que la vie de Azélie Martin, la mère de Thérèse, par le même docteur Robert Cadéo, aux mêmes éditions. Vous pouvez trouver ça à Montréal. C'est un beau cadeau à faire à son père, à sa mère, à des laïcs qui veulent vraiment lire la vie d'un couple de saints. Ils sont vénérables, on s'attend à ce qu'ils soient béatifiés. Donc, son père, Louis Martin, ancien horloger, gérait depuis 3 ans un commerce de point d'Alençon qui était tenu par sa femme Azélie Martin. Le point d'Alençon, vous connaissez probablement ça, c'est une dentelle très fine et très difficile à faire. Quand Azélie Martin, Madame Martin, est morte prématurément en 1876, donc à même pas 4 ans, 4 ans, en fait, après, 3 ans, c'est-à-dire 3 ans après la naissance de Thérèse. Thérèse était toute petite quand elle a perdu sa mère. Eh bien, son père, M. Martin, s'est retiré avec ses 5 filles à Lisieux, dans une villa plus ou moins modeste. On dit souvent une modeste villa. C'est une très jolie villa qui s'appelle les Buissonnets, c'est comme ça que les filles l'ont baptisé cette maison. Et l'existence y était bien paisible, c'était un climat de foi très fervente. Oubliez pas, on est en 1876. La vie est calme à cette époque comparée à celle d'aujourd'hui. Puis à 15 ans et 3 mois, bien, Thérèse Martin entre au Carmel de sa petite ville. Elle y meurt le 30 septembre, comme je vous ai dit, 1897. Bon, très vite, elle est connue dans le monde entier. Puis le pape Pie XI va la canoniser le 17 mai 1925. C'est assez rapide, comme vous voyez. 27 ans après sa mort. Plus de 500 000 pèlerins vont l'acclamer à Rome. 1,5 million à cette époque, c'est énorme. 2 ans plus tard, Pie XI, toujours le même pape, la proclame patronne principale des missions à l'égal de Saint François-Xavier. Saint François-Xavier, dont je vous ai déjà parlé. Célèbre apôtre de l'Extrême-Orient, au XVIe siècle. Ce jésuite extraordinaire. Et quelques années plus tard, le pape Pie XII va en faire la patronne secondaire de la France au même titre que Sainte Jeanne d'Arc. Puis le 19 octobre 1997, elle est déclarée docteur de l'Église, honneur que 2 femmes seulement ont reçu à ce jour. Sainte Catherine de Sienne, une laïque dominicaine, et Sainte Thérèse d'Avila, carmélite, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de Lisieux a eu conscience d'apporter au monde, disons, une façon nouvelle d'exprimer l'amour de Dieu. Une façon que les plus hautes autorités de l'Église ont reçue comme un don de l'Esprit-Saint à notre temps. Et je suis tellement d'accord. C'est tellement merveilleux ce qu'elle dit. Et la diffusion rapide de cette façon d'exprimer les choses s'est effectuée par un livre publié un an après sa mort, « Histoire d'une âme ». Il faut lire les dernières éditions qui sont expurgées de tout ce qu'a pu y mettre sa sœur, Mère Agnès. La sœur de Thérèse, d'ailleurs, Pauline, devenue Mère Agnès, prieure du Carmel de Lisieux, c'est elle qui en avait demandé la rédaction. Elle en a assuré la publication retouchée. Et des millions d'exemplaires traduits dans toutes sortes de langues. On dit qu'il y a à peu près presque 50 langues actuellement, hein, dans lesquelles on peut lire l'histoire d'une âme. Bien, ces millions d'exemplaires ont porté l'enseignement de cette jeune religieuse de 24 ans aux quatre coins du monde. Elle a résumé le contenu de sa pensée dans une formule célèbre, l'enfance spirituelle, conçue comme le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, comme elle dit, une petite voie toute nouvelle. Vous direz alors que c'est pas fait pour des gens sérieux. Ben, je vous lis ce que dit un intellectuel chinois, Zhou Wu, W-U. Il écrit « Quel courageux enfant, pensais-je. Si j'en juge par ces mots, même un homme comme moi ne doit pas désespérer. » Alors, il a demandé à Yuan, c'est ce qu'il écrit, « Je demandais à Yuan s'il existait un livre plus explicite sur Sainte Thérèse. Yuan me donna l'histoire d'une âme que je parcourus avidement et qui me fit une si forte impression que je me dis en moi-même, si ce livre exprime le catholicisme, je ne vois pas ce qui m'empêche d'être catholique. Car je trouvais ici la synthèse vivante entre des extrêmes opposés comme l'humilité et l'audace, la liberté et la discipline, la joie et la souffrance, le devoir et l'amour, la force et la tendresse, la grâce et la nature, la sagesse et la folie, la richesse et la pauvreté, et la communauté et l'individualisme. Cette sainte semblait rassembler en elle le cœur de Bouddha, les vertus de Confucius et le détachement philosophique de Lao Tzu. Voilà une jeune religieuse morte à 24 ans, et qui est arrivée à une telle perfection. Mais quel était son secret? Aurait-elle pu atteindre une telle plénitude si elle n'avait pas été membre du corps mystique du Christ? Or, c'est pendant la lecture de ce livre que je décidai de devenir catholique. La grâce avait touché mon cœur. Je vous rappelle le nom. Zhou, J-O-H, Wu, son nom de famille, W-U. Un intellectuel chinois. Je reviens donc au fait qu'elle était une grande amoureuse, Thérèse. A été définie vraiment comme ça. Amoureuse de Dieu, évidemment. Elle a écrit dans une de ses plus belles pages de son autobiographie, « Ma vocation, c'est l'amour ». C'est le titre, d'ailleurs, de ce bel ouvrage de Fernand Ouellet, un Québécois, publié chez Fides, « Je serai l'amour », un très, très beau livre, magnifique, que je ne saurais trop vous recommander. Ma vocation, c'est l'amour. Alors, beaucoup de saints ont vécu cette vocation depuis la prédication de l'Évangile, c'est sûr, mais elle est la première, peut-être, à la présenter d'une façon si originale, avec une telle force que l'un de ses meilleurs commentateurs a pu parler à son propos d'une révolution silencieuse. Toute la mentalité catholique en a été marquée jusqu'aux déclarations du Second Concile du Vatican. Et la question qui se pose, c'est donc celle-ci. Dans la ligne de sa voie d'enfant spirituelle, pour Thérèse et pour nous, qu'est-ce qu'aimer Dieu? Bien, un grand texte de l'histoire d'une âme nous introduit d'emblée dans sa petite voie. comme beaucoup de jeunes devant la vie s'intéressent de l'enfant Jésus, veut accomplir de grandes choses. Alors elle rêve. Elle déraisonne comme bien des jeunes. Et comme beaucoup de jeunes chrétiens généreux, elle souhaiterait entreprendre ce qui est le plus utile à l'Église pour l'amour de Dieu, mais c'est naturel. Et alors, comme tous les jeunes, elle ne se satisfait pas de sa situation. Elle est carmélite à 15 ans, c'est déjà pas mal. Elle est l'épouse du Christ. On peut dire même, sur un certain point, malgré ses 15 ans, qu'elle est mère des âmes. C'est un peu la condition des carmélites. Elles sont mères de nos âmes. Vous leur demandez des prières et elles s'occupent de vous comme si vous étiez leurs enfants. Oui, mais Thérèse pense à tant d'autres saints dont elle a lu les exploits. Des exploits si héroïques, Et elle écrit, je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Je sens mon âme le courage d'un croisé, d'une soif pontificale. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Et elle décrit dans son imagination ce qui lui permettrait de réaliser ces situations exceptionnelles. Que ce sont des rêves d'enfants. Tout le monde en fait. Et une part de rêve est nécessaire dans la vie. Même et surtout dans la vie spirituelle, oui, il faut rêver, ne nous assoyons pas dans notre vie spirituelle. Mais l'expérience nous oblige à choisir, évidemment, nous ne pouvons tout faire à la fois. Alors, Thérèse de Lisieux nous rappelle que le plus bel idéal n'a de valeur que s'il se réalise dans le concret de nos existences quotidiennes, dans le concret, à chacun d'accomplir de son mieux ce qu'il a à faire. Une comparaison célèbre de saint Paul nous le rappelle. C'est celle du corps mystique dont le Christ est la tête. Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était oreille, où serait l'odorat? Alors tous les organes jouent leur rôle propre. Et il importe, évidemment, que chaque organe ait sans cesse le souci des autres. Or, aimer Dieu ne nous retranche pas de l'humanité. C'est évident. Qu'une carmélite soit bonne carmélite, un missionnaire bon missionnaire, une mère bonne mère de famille, et l'ensemble des hommes en profitera. On n'est jamais séparé des autres. Et c'est sûr que Thérèse l'accepte, la lumière. Nous devons tous l'accepter. Mais tout cela ne la fait pas. Ça la satisfait pas, c'est-à-dire. Elle poursuit la lecture de saint Paul. Puis elle finit par rencontrer la lumière qui va éclairer son chemin. Elle l'a trouvée. Une tâche plus parfaite nous est confiée par Dieu, puis elle englobe toutes les autres. Et cette tâche nous donne à tout ce qu'on fait une vraie valeur, c'est la charité. On peut appeler la charité de son nom le plus simple et le plus évocateur que je préfère, l'amour, l'amour. Rien de nouveau, c'est évident, dans cette découverte. Depuis longtemps, les Juifs ont reçu ce commandement du Seigneur, le plus important. C'est le premier de tous, et vous vous souvenez, dans le Deutéronome, au tout début de la Bible. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. » Alors Jésus a repris à son compte ces paroles-là. Il en a fait la base de son enseignement à ses disciples. Puis, il l'a pratiqué fidèlement jusqu'à la croix. Et les derniers chapitres de l'Évangile de saint Jean, au soir du jeudi saint, avant son agonie et sa passion, nous révèlent les secrets de son cœur. Et Thérèse connaît depuis longtemps tous ces textes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle écrit « C'est la clé de ma vocation » C'est qu'elle l'a compris que si l'Église avait un corps, elle voulait être l'amour dans ce corps. Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, et ainsi je serai tout. Ainsi mon rêve sera réalisé. Pour Thérèse de Lisieux, elle dit que c'est la clé de sa vocation. Sa vocation, elle sent vite que beaucoup peuvent la partager avec elle, que c'est même un appel adressé à tous les chrétiens. Non, il n'est pas possible de tout faire dans la vie, mais nous pouvons les unifier par l'amour, nos actions, et faire de nos actions des cris d'amour. Et cette lumière qui lui apparaît dans un éclat nouveau, elle sent qu'il faut la faire connaître, et de plus en plus, s'impose à elle le besoin de communiquer sa découverte. Aimer quoi de plus simple? Aimer dans de petites choses? Là où la Providence nous a placés, tout simplement. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Non, c'est dans le psaume 130. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. C'est beau ces psaumes qui rappellent au fond la pensée de Thérèse. Et ça a été écrit il y a 2500 ans. Aller à Dieu sans prétention. D'autres l'avaient dit, avant elle. Mais Thérèse, bien plus sans doute qu'elle ne l'avoue, a subi l'influence de quelqu'un. D'un auteur qu'elle a lu et qu'elle a relu depuis son adolescence. En même temps qu'elle lisait Sainte Thérèse d'Avila. Et c'est le grand inspirateur du Carmel réformé, Saint Jean de la Croix. Elle l'a beaucoup lu. Et de lui, entre autres leçons, elle a retenu que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant. Vous aurez beau offrir toutes vos souffrances, s'il n'y a pas l'amour, c'est de la poussière. Elle a retenu aussi qu'au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Elle écrit aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. L'amour ne se paie que par l'amour. Le plus petit acte de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. Mais si on comprenait ça, le monde serait transformé puis deviendrait une grande symphonie. Hein? Mais Saint Jean de la Croix n'est pas un auteur facile et depuis le début du XXe siècle, de nombreuses études, heureusement, ont rendu sa doctrine beaucoup plus accessible. Il y a tellement de belles éditions en petits livres d'extraits de la pensée de Saint Jean de la Croix ou des explications qui sont magnifiques. Ça vaut la peine de lire ça. C'est bien plus intéressant que la plupart des livres qu'on s'achète éperdument. À l'époque où écrivait Thérèse, elle était considérée par beaucoup comme inabordable, la pensée de Saint Jean de la Croix. Mais elle ne l'a jamais affirmé clairement. Elle l'aimait trop. Il le respectait comme son père. Mais on peut se demander s'il ne l'a pas secrètement pensé. En même temps que son cantique spirituel, elle méditait le cantique des cantiques. Et elle puise dans ce cantique des cantiques beaucoup de choses, si belles, pleines d'amour. Simplicité ou petite voix, voilà, qui convient à tous les chrétiens sans exception, aux laïcs en particulier, qui pourraient se croire exclus de la sainteté. D'ailleurs, le dernier concile, les papes, Jean-Paul II, avec insistance, le rappelle sans cesse, hein, nous sommes tous appelés du dernier jusqu'au premier, mais surtout les petits derniers sont appelés à la sainteté. Y a-t-il des derniers? Les derniers seront les premiers, dit Jésus. Et le chemin tracé par Thérèse est sûr. Certains iront plus ou moins vite, plus ou moins loin. C'est que Jésus supplie à toutes les insuffisances. Hein. Quand on se décide, là, il supplie à nos insuffisances. Quand on se décide à le suivre vraiment, là, se décider à le suivre vraiment. En fait, plusieurs religieuses de son Carmel, qui sont réticentes au début, vont se laisser convaincre. Elles vont suivre. Elles vont décider. Puis il va y avoir une multitude d'âmes consacrées qui vont s'enthousiasmer à la lecture de l'histoire d'une âme. Mais les chrétiens qui mènent une vie moins protégée, eux autres dans le monde comme nous, là, ne faut pas se dérober trop vite. D'accord, on vit dans des conditions très différentes de celles du Carmel, pour la plupart d'entre nous, à moins de vivre très solitaire. Mais il y a de nombreux témoins qui nous encouragent. Pensez à Marthe Robin, en dehors de la vie religieuse proprement dite. Quand on pense à elle, Marthe Robin, je vous ai fait une émission sur elle, qui est morte en 1981. Elle offre le type même d'une chrétienne très modeste, vivant à la campagne, paysanne, élevée par Dieu dans les voies de l'enfance spirituelle. Une femme qui défie, par toute son existence, tous les sages et les savants, comme on dit. Pendant 50 ans, vous le savez, hein, elle est restée paralysée dans son lit, sans manger, sans boire, et plus étonnant encore, pour les médecins, sans dormir. Et à l'âge de 25 ans, elle écrivait, « Que c'est beau ce qu'elle écrit, il me semble que je ne suis plus qu'une toute petite chose dans les bras du bon Dieu, et que je vais rester ainsi jusqu'à la mort. » Un pressentiment qui s'est parfaitement réalisé dans la continuité de son offrande, pleine d'amour. Écoutez bien ce qu'elle disait, c'est la clé. Je ne souffre pas, j'aime. Et elle le disait en souriant. Je ne souffre pas, j'aime. Oui, je ne souffre pas, j'aime. Et convaincu par 3 apparitions, qu'elle vivait sa mission dans le sillage de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, rien n'a pu détourner Marthe Robin de sa voie d'humilité. Ni les phénomènes mystiques les plus extraordinaires, ni la réussite de ses plus grandes initiatives apostoliques, comme elle a fondé 80 foyers de charité dans le monde, tout en étant paralysée dans son lit, c'est incroyable. Elle avait, dans sa chambre, une affluence de gens, des milliers de personnes de toutes les conditions qui venaient de toutes les parties de la terre pour lui demander des conseils, des membres de l'Académie française, aussi bien que des gens très simples, des évêques, des cardinaux. Elle a toujours refusé de se prendre au sérieux. Elle ne jouait pas au professeur. Elle n'avait pas un ton doctoral. Elle répondait aux questions posées par ses visiteurs avec un solide bon sens terrien. Et même ses épreuves physiques lui étaient une occasion d'humour, comme chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Et cependant, une vérité profonde émanait d'elle, comme une lumière du Saint-Esprit. Il faut justifier l'expression de Thérèse, hein, la petite voix. Il faudrait tout d'abord rappeler sa manière de concevoir Dieu et ses rapports avec lui. Hein. Elle a une conviction importante, c'est que Dieu est Père. Si on savait ça, que Dieu est Père, il le comprend jusqu'au tréfonds de notre être. Hein. Très peu de gens le comprennent, j'ai l'impression. Plus je vieillis, plus il me semble que très peu de gens comprennent ce que c'est qu'un Père. Un Père, c'est plein d'amour, c'est un cœur de mère. Donner à Dieu le nom de Père n'a rien d'original, c'est évident, la Bible l'a fait depuis longtemps. Jésus parlait de « mon Père et votre Père ». C'est chapitre 20 de Saint Jean. Mais le mot peut recouvrir des réalités différentes, c'est sûr, hein, souvent en relation, pose nos expériences, eh bien, on se demande ce que c'est qu'un Père. Parce que, vous savez, les professeurs de religion ont parfois de la difficulté à présenter un Dieu juste, bon, miséricordieux, comme un père, avec un cœur de mère, quand je vous dis, à des enfants qui ont souffert des sottises de leur propre père, qui est souvent d'un égoïsme imbécile, qui n'a pas la foi, qui se conduit n'importe comment, qui trompe leur mère. Ou même moins que ça, qui est simplement un peu trop sévère et pas assez aimant. Même pour ceux qui gardent l'admiration à l'égard de leur père, il reste, assez souvent, une certaine distance qui est difficile à combler pour atteindre à une intimité véritable. Mais peut-être qu'il faudrait chercher dans ses pères cette paternité trop réservée, là. Parce qu'ils ont des... Il faudrait chercher là les marques d'affection, la tendance générale des mystiques à inspirer leur amour du Seigneur, d'un type encore plutôt conjugal que filial. Et souvent, les mystiques pensent à Jésus d'abord, qui est leur époux, et moins à Dieu, notre Père, qui est tout amour. Mais Thérèse, elle n'a pas eu à opérer ce redressement. La mort prématurée de sa mère l'a fait beaucoup souffrir. Et M. Martin était pour elle l'exemple de toutes les vertus. Sa famille ne manquait de rien. Et M. Martin veillait à y développer la paix dans une piété solide et dans la charité. Pour Thérèse, son père est un père idéal, alors elle se représente Dieu comme lui. C'est si facile d'être enfant avec lui et de l'aimer pour le rendre heureux comme elle rendait de mille façons heureux M. Martin. Alors elle veut rendre Dieu heureux, son père du ciel. Et d'autres pourront juger et triquer cette conception de la vie. Mais Thérèse y puise les éléments de la petite voix. Quand on aime un vrai père, on ne se complique pas l'existence, on aime tout simplement. Et Thérèse a une autre conviction, c'est que Dieu est un père miséricordieux. Et dans la table de citation de ses manuscrits, on relève 6 fois seulement le mot Trinité, une dizaine de fois le mot Saint-Esprit, et plus de 150 fois l'expression le bon Dieu en pensant à Dieu son père. Thérèse connaît assez de théologie pour savoir quel est le temple vivant de l'adorable Trinité, comme elle dit. Mais elle écrit le bon Dieu, et tout est dit. Parfois, Jésus pour exprimer le même ami divin, comme font des gens simples. Et on trouve une seule allusion à un Dieu vengeur. Une petite allusion de rien du tout, car elle dit « Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint par personne, mais aimé jusqu'à la folie. Oui, si on savait, on aimerait Dieu jusqu'à la folie plutôt que d'en avoir peur. » Elle a composé une célèbre offrande à l'amour miséricordieux. Un texte qui va être repris par la suite par des milliers de chrétiens. Vous le connaissez probablement la plupart d'entre vous, j'espère. C'est la prière d'une âme consciente de sa pauvreté. Une âme qui est disponible pour se laisser conduire. Oui, se laisser conduire par la douce et amoureuse volonté d'un Dieu qui ne peut vouloir que son bonheur. Comprenez bien ça. La volonté de Dieu ne veut que notre bonheur. Elle écrit « Je désire accomplir parfaitement votre volonté. Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je ne veux pas amasser des mérites pour le ciel, non. Je veux travailler pour votre seul amour. Je paraîtrai devant vous les mains vides. » Elle n'aura pas de mérite dans les mains. Elle aura l'amour. C'est beau. Je ne veux point d'autre trône ni d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Et le bien-aimé, évidemment, a pris très vite Thérèse auprès de lui. Car le bien-aimé a été touché au cœur. Et d'autres qui feront la même offrande, pourtant vont vivre de longues années, une existence plutôt normale. Sa sœur Céline, par exemple, qui mourra à l'âge de 90 ans, prieure du Carmel de Lisieux, où elle a jusqu'au bout assumé de très lourdes tâches. C'est comme ça. C'est un acte d'abandon qu'elle fait. Pour Thérèse, il suffit d'aimer pour faire cet abandon, cet acte d'abandon. Dieu va l'utiliser comme il voudra. Mais n'empêche qu'elle a dit « Je me consacre comme victime ». Comment peut-on présenter cette offrande à toutes les âmes, même si elles sont de bonne volonté? C'est en se rappelant que Thérèse a choisi une attitude très importante qui est l'enfance spirituelle. Thérèse va renouveler le sens de cette expression qui est traditionnelle depuis les paroles de Jésus que vous connaissez et connaissez, hein? Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent, dit Jésus. Amen, ajoute-t-il, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Puis dans Saint-Luc, au chapitre 18. Alors les chrétiens auront toujours le plus grand respect pour les enfants sans défense, dont les païens, à son époque, se débarrassaient sans ménagement. Il y avait beaucoup d'infanticides, comme ça commence de plus en plus chez nous. À force de tuer nos enfants avant qu'ils ne naissent, on commence à les tuer après leur naissance. Vous verrez, ça n'ira qu'en augmentant, comme l'euthanasie. Mais les méthodes d'éducation ont longtemps manqué de mansuétude au cœur du christianisme. Nos éducateurs chrétiens citaient volontiers la Bible « Qui épargne la baguette est son fils, haït son fils si vous voulez, qui l'aime prodigue la correction. » C'est dans le livre des Proverbes. Bah. Elle disait, elle aimait bien lire dans l'Épître aux Corinthiens, la première, « Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. » Puis, elle revenait alors à Saint Matthieu, « Si vous ne revenez pas à l'état des enfants. » Elle partageait les deux et elle unifiait tout ça dans son cœur. Ceux qui donnaient à Jésus l'occasion de parler comme ça, là, n'étaient pas des bébés, puisque les apôtres les écartaient comme des importuns. Jésus, lui, tout en voyant leurs défauts, percevait aussi leurs qualités aux enfants, une spontanéité, une familiarité, une facilité à se laisser conduire et aimer. Alors, dans le christianisme, c'est là les dispositions qui sont bien favorables au rapport de l'homme avec Dieu. Avoir une âme d'enfant. Les conditions de sa vie dans la famille Martin, pour Thérèse, elle l'a aidée, elle a comprendre tout ça. Elle était la dernière venue, puis elle a grandi dans un milieu protégé, dans une joie de vivre. Vous savez, c'est un grand privilège qu'elle avait. Oh, véritablement, disait-elle, tout me souriait sur la terre, et surtout avant la mort de sa mère, évidemment. Mais après, ce fut un autre genre d'enfance, peut-être moins enjouée, mais toujours entourée de la tendresse la plus délicate à cause de ses grandes sœurs qui l'avaient adoptée, l'une à la suite de l'autre, comme mère, mais les deux premières sont entrées au Carmel. Elle a perdu trois fois, en fait, sa mère. Sa vraie mère est morte, ensuite deux de ses mères, qui étaient ses sœurs, sont entrées au Carmel. C'est très dur. Mais l'Évangile dit redevenir et pas du tout rester enfant. Hein. Alors d'où vient qu'en dépit de son bonheur, la moindre contrariété lui arrache à Thérèse des larmes? Elle souffre de scrupules aussi qui vont la faire vraiment souffrir pendant longtemps. Elle va le reconnaître plus tard. Hein. C'est un amour propre, je dirais, qui gâtait la spontanéité de sa première enfance. Puis il fallait une conversion. Comme quoi, elle n'est pas née sainte, hein? Elle est passée à travers toutes sortes de problèmes. Et Thérèse le comprend vers ses 14 ans, en entrant dans le sérieux de la vie, comme elle dit, c'est ce qu'elle écrit. Mais évidemment que des scrupules, ça entraîne des séquelles. Ça va la poursuivre encore plusieurs années, même après son entrée au Carmel. Alors elle souffre intérieurement. Il lui a fallu du temps pour perdre tout désir de grandir et toute peur de ne pas être parfaite. C'est ça qui crée les scrupules. Puis elle est arrivée finalement à retrouver l'indigence du petit enfant, la simplicité devant Dieu, s'abandonner. C'est comme ça qu'à une novice qui lui disait « Quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir », elle avait répondu « Dites plutôt à perdre ». Et peu de temps avant sa mort, elle affirme en toute sérénité, sans orgueil, « C'est si doux de se sentir faible et petit. » En somme, de rester une petite âme. Comme elle écrit, avec mes petites actions et mes petits sacrifices. Des petites choses. Aussi, elle va être, pour nous tous, la petite sainte de Lisieux, la petite Thérèse, la petite. Elle a d'ailleurs écrit, la plus grande chose que le Tout-Puissant ait faite pour moi, c'est de m'avoir montré ma petitesse. Comme il pourrait y avoir de l'orgueil là-dedans et de la vanité, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle part dans la vérité de son cœur. En toute humilité. Car elle sait que c'est Dieu qui fait ça. Elle sait que c'est Dieu qui fait tout. Pourvu que nous voulions que Dieu le fasse. Elle a voulu transmettre cette lumière d'ailleurs aux autres, et le message est passé, c'est la petite voix. Il faut bien comprendre cette petitesse. Il ne s'agit pas de tomber dans la naïveté, puis la mesquinerie, puis l'insignifiance. Son enfance spirituelle, malgré les apparences trompeuses, d'un style qui n'a pas de prétention, ça n'a rien de puéril. Ça nourrit, même si elle refusait le mot, là, ça nourrit une volonté héroïque d'amour. Il y a du soldat en elle. Elle n'a jamais refusé des responsabilités dans son Carmel, et à peine âgée de 23 ans, encore novice, un an avant sa mort, elle reçoit la charge de former les autres novices. Elle s'en acquitte avec une autorité lucide. On en a de nombreux témoignages. Thérèse a participé à la vie communautaire sans se plaindre de ses fatigues. Elle est pleine d'entrain dans les récréations, puis est toujours prête à se dépenser dans le service de ses sœurs. Puis elle a fait preuve d'un talent peu commun pour écrire des poésies, composer des pièces de théâtre. Il y a même une photo d'elle dans un rôle de Jeanne d'Arc. Hein? C'est une photo qu'on voit assez souvent. Surtout, puis elle fait preuve d'un rare courage dans ses épreuves morales, dans sa maladie, cette douloureuse maladie que je vous ai racontée hier. « Mon âme s'est mûrie, dit-elle, dans le secret des épreuves extérieures et intérieures. » Et alors, la petite voix, c'est quoi? Bien, il y a quelques lignes rédigées peu de temps avant sa mort, qui nous livrent sa pensée, ou plutôt, une lumière du Seigneur, de mieux en mieux vécue, avant d'être exprimée, là. Elle dit « Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les gens riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. J'ai lu ces mots sortis de la sagesse éternelle, c'est dans le livre des Proverbes, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors, ajoute Thérèse, « Je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondait à votre appel, mais j'ai continué mes recherches. Et voici ce que j'ai trouvé. » C'est dans Isaïe, chapitre 66. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Quand Dieu dit des choses comme ça, moi, ça me bouleverse le cœur. Je répète ces paroles de Dieu, du prophète Isaïe. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Et Thérèse ajoute, « Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. » Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Et moi, je veux chanter vos miséricordes. Alors nous retrouvons dans ce beau texte les deux idées directrices de la petite voix. C'est quoi? La miséricorde du Père, puis la nécessité de rester enfant pour demeurer dans son amour. Dans son dernier manuscrit, remis à sa prière quelques mois avant sa mort, Thérèse écrit une phrase surprenante. « Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce qu'est la charité. Elle a toujours connu et pratiqué cette vertu. De sa famille, on aurait pu dire, comme les premières communautés chrétiennes, on voyait comme ils s'aiment. C'était un amour fantastique qui régnait dans cette famille. Mais depuis son entrée au Carmel, à 15 ans, Thérèse n'a cessé de manifester un dévouement puis un désintéressement que certaines de ses sœurs lui enviaient d'ailleurs. Quelqu'un vous importune? Une bonne occasion de garder la paix. Elle s'explique. « Ce que je fais, vous pouvez le faire. Ce n'est pas difficile. » C'est ce qu'elle dit, que ce n'est pas difficile. Je ne suis pas si sûr. Elle dit « Ce n'est pas difficile. Il faut veiller à ne pas s'agacer intérieurement, à adoucir son âme par des pensées charitables. » Oui, adoucir son âme par des pensées charitables. Après cela, on pratique la patience comme naturellement. Oh mon Dieu, on peut le faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et tout à coup, ça claque. Il faut aller se confesser. Si l'on savait ce que l'on gagne à renoncer à toutes ces choses, dit-elle. Et ces conseils, elle les pratiquait dans le moindre détail. Un exemple. Une religieuse ne cesse de faire du bruit avec son chapelet pendant le silence de l'oraison. Vous voyez le chapelet qui fait du bruit sur les bancs ou ça. Ah, elle supporte sans rien manifester. Une autre sœur la poursuit sans motif de remarques hargneuses. Comme ça arrive, ça. Elle la comble alors de prévenance et finit par se l'attacher à force de douceur. Il serait facile de multiplier les exemples de ses renoncements. Il serait facile aussi de montrer à quel point elle sacrifiait son intérêt au bien de la communauté. Cependant, ces formes de l'amour du prochain n'ont rien d'original. Un tout chrétien les connaît. Mais Thérèse les a toujours considérées comme le béaba de ses devoirs les plus élémentaires. Alors comment se fait-il qu'elle n'a vraiment compris la charité qu'à la fin de sa vie? C'est parce que l'évolution de sa pensée a trouvé dans la méditation de Saint Jean de la Croix des aspects nouveaux de cette vertu. Dans la ligne de sa petite voix, elle écrit ce qui suit à la dernière scène. Lorsque Jésus sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit, avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraîner, de vous entraîner, et que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. » Pour Thérèse, elle comprend bien les paroles de Jésus à la dernière scène. et elle comprend bien ce « comme je vous ai aimé », elle dit que c'est que Jésus veut aimer en moi. L'enfant spirituel ne peut pas nous paralyser. La petite voix, c'est un appel. Qui peut refuser sa prière? Qui n'est pas capable de témoigner dans le silence d'une vie, si humble soit-elle? Qui ne peut partager le désir de Thérèse quand elle dit « Je voudrais convertir à Jésus tant de cœurs. » Tout poignéseux. Mais non, Jésus, quand quelqu'un se convertit à lui, rencontre... Quand on se convertit à Jésus, on rencontre le seul homme capable de nous rendre heureux, car en même temps qu'il est homme, il est Dieu, il est le Dieu d'amour. Dans la chambre des Buissonnets à Lisieux, un soir de Noël, Céline avait déposé comme cadeau un navire. Il portait un enfant Jésus qui s'appelait Abandon. Et ce mot, rarement employé dans l'histoire d'une âme, exprime bien le secret de la petite voix. Oui, c'est l'abandon. L'abandon a fait son chemin dans l'âme de Thérèse. Elle ne trouve pas de mots plus significatifs pour exprimer sa pensée. Lorsqu'elle rédige sa lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur, un an avant sa mort, Marie du Sacré-Cœur lui avait demandé de lui expliquer ce qu'elle appelait son rêve et sa petite doctrine, puis elle écrit « Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites, écoutez bien, sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas nos grandes actions, mais seulement l'abandon. » Alors, il est nécessaire de préciser ce terme. C'est facilement détourner son sens, abandon. Ça vient de l'ancien français qui veut dire libre disposition, pouvoir. En somme, c'est laisser au pouvoir de quelqu'un. Abandonner comporte donc un renoncement, disons, à une propriété, à un droit, mais nul ne peut renoncer à ses devoirs et à sa propre dignité d'homme, évidemment. Attention, il y a une façon de s'en remettre entre les mains de Dieu qui serait une démission. Et non un libre abandon. Attention, attention à la fausse enfance spirituelle aussi, à la fausse manière d'accepter sa petitesse, puis à la fausse modestie. Le pape est conscient des dons qu'il a reçus et les exerce. Le cardinal Ratzinger aussi. Et des tas de gens dans l'Église qui ont d'immenses dons, mais supérieurs de communautés, de femmes ou d'hommes, ceux qui ont de grands dons, les exercent et savent que c'est Dieu qui les a donnés. Ils sont modestes, car ils savent. Je reconnais mon incapacité. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Ça, c'est de la fausse modestie. Il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes. Il y a des gens qui abandonnent tout effort, toute lutte spirituelle. Il y a des gens qui ont peur de retrouver leur force. Ils aiment mieux être assis. Il y en a qui se complaisent dans leur dénuement. C'est comme s'il y avait un enfant en eux qui refuse de grandir. Alors, c'est le cul-de-sac, c'est l'impasse. Et ça, c'est pas la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Mais il n'en exige pas moins notre collaboration. Il n'accepte pas les ruses du genre « je suis trop petit, je n'arriverai pas, c'est trop difficile pour moi, on me demande trop ». Non, au contraire. Il aide ceux qui, sans prétention, font les premiers efforts, sans prétention, en s'abandonnant. « Si je n'ai pas la puissance de l'aigle, j'en ai les yeux et le cœur », c'est ce qu'elle dit. Et en attendant l'ascenseur, bien... je m'essaie à gravir les premiers degrés de l'échelle, comme on disait tout à l'heure. Un des mots employés le plus souvent par Thérèse est le verbe « vouloir ». Longtemps, elle l'a conjugué au conditionnel. Elle disait « je voudrais », parce qu'elle se méfiait de ses propres forces. Mais à la fin, elle va dire « je veux ». Je veux, je veux. Dans son dernier manuscrit, à la même page, on lit « je veux pratiquer la charité ». Je veux être aimable avec tout le monde. Je veux imiter saint Paul. Et un peu plus loin, je veux être fille de l'Église. Je veux demander qu'un jour nous soyons tous réunis. » Elle aime l'expression « avoir bonne volonté ». Non dans le sens des bonnes intentions, dont l'enfer est pavé, là, mais dans celui d'une volonté courageuse, une volonté de qualité, celle qui, justement, justifie la confiance. Le terme qui définit le mieux son abandon, la confiance, la confiance. Sainte Thérèse de Lisieux a retenu ces paroles du Cantique des Cantiques que beaucoup de mystiques ont méditées. Hein. « Traîne-moi. » C'est Saint François de Sales qui disait « Si je veux vous suivre, ce n'est pas que vous me traîniez, c'est que vous m'entraîniez. Lorsqu'une âme s'est laissée attirer par l'odeur enivrante de vos parfums, dit Thérèse, elle ne saurait courir seule, une âme embrasée d'amour ne saurait courir seule. Elle est pleine de confiance et pleine d'amour. La confiance a progressivement supprimé ses angoisses. Elle a souffert, parfois avec tristesse. Elle l'avoue avec simplicité. Elle remercie même sa prière de l'avoir soutenue par sa sévérité. « Mais ce n'est plus ainsi que je souffre, dit-elle maintenant. C'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Pourquoi heureuse? Parce qu'elle aime. Elle aime. Et c'est la spiritualité du moment présent pour elle. L'unique règle de l'abandon, c'est ce que dit mon fin connaisseur, le père de Caussade, dont je vous parlerai le 8 décembre lors de la 350e émission. Père de Caussade dit « Être mobile comme une boule pour recevoir et suivre toutes les impressions de la grâce. Comme vous voyez, cette doctrine se poursuit ainsi de siècle en siècle. » Mais elle est exprimée par Thérèse, qui n'est pas née sainte, elle l'est devenue. Elle a tracé un chemin convaincue d'être suivie par une multitude de petites âmes, résolue à se plonger comme elle dans la miséricorde. Puis il faut le répéter, hein, même si les merveilles de la grâce ne produisent pas toujours les mêmes résultats dans nos cœurs, beaucoup sont allés plus loin et plus vite vers Dieu à cause d'elle, à cause de son enseignement, à cause de son exemple et de son intercession. Elle tient sa promesse, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Elle dit, « Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. » Dans l'audacieuse confiance en la miséricorde infinie de Dieu. La beauté de ces paroles sont telles qu'on reste pantois devant tout ce qu'elle dit. Tout est riche. « Longtemps encore, écrit-elle, je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. »